Jean-Luc Domnach est né en 1945. Il est diplômé d'histoire, diplômé de sciences politiques et diplômé de chinois. Il est docteur d'État. Il a fait sa carrière essentiellement de chercheur à la Fondation nationale des sciences politiques à partir de 1973. De 1979 à 1981, il a été chargé de mission au Centre d'analyse et de prévision du ministère des Affaires étrangères. Ensuite, de 1985 à 1994, il a été directeur du Centre d'études et de recherche internationales de la Fondation nationale des sciences politiques. Et il est depuis 1995 directeur scientifique de la Fondation nationale des sciences politiques, où il anime également un programme de DEA sur l'Asie contemporaine. Ses spécialités, vous vous en doutez, c'est la politique intérieure et extérieure de la Chine populaire et les relations internationales en Asie orientale. Il est membre du comité de rédaction ou du conseil scientifique de nombreuses revues, dont la Revue française de sciences politiques, 20e siècle, Critique internationale, Politique internationale. Je cite ses ouvrages, si vous voulez vous les procurer, des ouvrages récents. L'archipel oublié, Paris, Fayard, 1992. En collaboration, la Chine, 1949-1994. Et l'Asie retrouvée aux éditions du Seuil, 97. Et puis l'Asie en danger chez Fayard en 1998. Tout ça, vous pouvez le retrouver sur notre site internet. Je lui donne donc la parole pour une cinquantaine de minutes et après, il répondra à vos questions. Je vous remercie.
Merci. D'abord, un petit mot d'émotion, parce que l'homme qui vient de me présenter est un vieux copain de Cagnes, il n'y a pas d'autre mot, et que nous avons usé le fond de culotte ensemble au lycée du Parc à Lyon il y a, je ne sais plus, enfin, on ne va pas le dire, mais il y a du temps, un certain temps, et que ça fait plaisir de se retrouver en ces occasions, admirables, parce que c'est formidable qu'on trouve autant de monde encore dans des conférences un peu exigeantes. Alors, deux, trois mots d'abord de précaution. Un exposé oral, ça n'est pas un exposé écrit. Vous allez donc entendre une conférence, mais vous trouverez une publication d'un article, disons, plus serré, tel que les éditions les attendent, donc publié dans les volumes que Yves Michaud édite à partir de ces conférences. Deuxième point, le sujet est immense, pas seulement à cause du communisme, pas seulement à cause du reste du monde, mais à cause de la Chine, si je puis dire, parce que c'est une immense question, une question d'autant plus difficile que pendant très longtemps, l'accès, disons, aux données était difficile, non pas seulement pour des raisons linguistiques, mais aussi pour des raisons idéologiques. Vous vous souvenez peut-être que pendant la Révolution culturelle, il s'est dit beaucoup de bêtises en France à propos de la Chine. J'ai appris le chinois, ça m'a évité d'en dire certaines, mais probablement pas toutes, parce que par ailleurs, la Chine pose des problèmes de méthode considérables, compte tenu du fait notamment que les Chinois se sont longtemps pensés eux-mêmes comme différents. En ce sens, ils ressemblent largement aux Japonais. Le point, alors je voudrais simplement dire avant de commencer aussi que vous trouverez non seulement mes livres, mais d'autres livres tout à fait importants. S'il fallait choisir un seul livre sur la Chine du XXe siècle, je vous recommanderais le livre de Lucien Bianco, Les origines de la révolution chinoise, publié chez Julliard en poche. Et s'il fallait en prendre un deuxième sur la Chine populaire, je vous conseillerais l'ouvrage de Marie-Claire Bergère. Et enfin, si vous voulez lire un livre de récits sous forme romancée, vous trouverez le livre de Jung Chang, J-U-N-G-C-H-A-N-G, garde rouge devenu mannequin à Londres, qui fait un récit extraordinaire de trois générations chinoises en un siècle d'existence. Alors, pour mon propos, bon, on ne peut pas se changer, je vais faire un exposé en trois parties. Après une introduction où je chercherai à vous dire ce que je vais vous dire, l'essentiel, la question que je vais poser, je vais essentiellement me poser la question de comment le communisme chinois a répondu au nationalisme originel qui était le sien, et ce sera dans la première partie pour réfléchir sur les difficultés qu'a eu Mao Tse-Tung pour mettre en place une politique dite révolutionnaire, et dans une deuxième partie pour montrer comment Deng Xiaoping a mené une intégration à la fois contrôlée, retardée et chaotique, mais comment dans un troisième temps la Chine se trouve prise au piège étrange et paradoxal d'un monde à la fois beaucoup plus attractif et beaucoup plus difficile pour elle qu'auparavant. Tout ça apparaît comme ça un peu compliqué, ça va se simplifier si l'on considère d'abord les questions que je me pose. La question, bien sûr, c'est celle de l'avenir de la Chine. Le monde entier se l'est toujours posé, pour des raisons d'ailleurs qui tenaient largement à l'ignorance que nous avions à propos de la Chine, aux difficultés d'approche, au baratin qu'elle suscitait. Il est clair qu'on écrit plus facilement à propos de la Chine, comme Alain Perfit, son premier livre, quand on y a fait un séjour de 10 jours, que lorsqu'on y a séjourné 2 ou 3 ans ou plus. La question de l'avenir de la Chine est une question que le monde entier se pose depuis extraordinairement longtemps. La question de l'avenir du communisme en Chine est liée parce que le communisme, c'est connu, mais il faut le redire, n'est pas, quand il s'installe en politique, n'est pas un régime anodin, n'est pas un régime comme les autres. C'est un régime qui travaille la société en fonction d'une conception du monde qu'il a. Et on voit par les mutations de la Russie post-soviétique l'ampleur des transformations qui sont induites par le communisme. Le problème n'est pas seulement qu'il parte, le problème est de savoir ce qu'il laisse quand il part. La question est donc posée très très vivement sur la Chine, d'autant que, on le sait, le communisme, lui, survit nominalement en Chine, alors qu'il s'est effondré presque partout dans le monde. Donc vraiment, se poser la question de l'avenir du communisme est indispensable pour poser un peu plus clairement la question de l'avenir de la Chine. Le deuxième point de mon introduction, c'est que la question de la direction prise à l'intérieur par les dirigeants chinois, la question de l'évolution du régime intérieur chinois, est depuis un siècle et demi étroitement dépendante de la question du rapport entre la Chine et le reste du monde. Cela tient à un fait fondamental dans l'histoire du monde, je ne sais pas, mais dans la psychologie, dans la conception qu'en ont les Chinois eux-mêmes, qui est cette invasion, ce viol, il n'y a pas d'autre mot, que la Chine a subi entre le premier tiers et le deuxième tiers du siècle dernier. Je crois que si j'avais arrêté ma conférence, si tout d'un coup il y avait une panne d'électricité, j'aurais dit l'essentiel. L'essentiel est là. L'essentiel, c'est que l'Occident a saisi la Chine dans un état d'impréparation idéologique et technique totale. Idéologique parce que la Chine se prétendait la meilleure, voire même la seule au monde, et qu'elle a vu arriver non seulement des systèmes militaires et industriels extrêmement performants, mais qu'elle a vu arriver un système qui avançait des principes religieux et des principes philosophiques qui lui paraissaient, qui paraissaient aux élites chinoises différents. Le sont-ils à ce point? C'est une autre affaire que d'ailleurs Yves Michaud pourrait traiter. Mais il est clair que ça a été, disons, un bouleversement. Bouleversement aussi parce que ça a été la première défaite vraiment radicale et perçue comme telle de l'Empire chinois. Jusqu'alors, la Chine avait pratiqué la guerre et d'ailleurs les défaites d'une façon, j'allais dire, quasi bénévolente, les Chinois n'ayant pas une passion formidable pour la guerre, se laissant envahir joyeusement, étant sûrs de siniser toutes les, j'allais dire, les uns et les autres qui s'imposaient sur son territoire. Et ce qui s'est passé avec l'Occident, c'est l'arrivée de gens qui maintenaient leur altérité totale, assuraient leur supériorité sur la Chine, ne voulaient nullement se faire chinois, mais au contraire, plier la Chine à leur système de société et à leur système de pensée. Ça a été véritablement un trauma absolument effroyable dont la Chine n'est probablement pas encore sortie et qui a déterminé toute l'histoire suivante. C'est en effet, ici je passe très 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 vite, c'est en effet parce que l'Empire chinois s'était montré incapable de répondre à cette menace qu'il s'est effondré. C'est aussi parce que les autres tendances qui se sont ensuite succédées au pouvoir à Pékin, à Nankin ou dans les provinces ont montré leur incapacité à apporter une réponse aux défis adressés par l'Occident. C'est pour cette raison que la dernière des formules politiques nationalistes s'est finalement imposée, par défaut d'abord, la formule communiste. Elle s'est également imposée par la vertu de ses propres qualités, non pas que les dirigeants communistes chinois étaient des génies, c'était au contraire des hommes surtout de bon sens paysan, mais la politique n'est pas forcément affaire de génie, elle n'est pas forcément affaire de Bac plus 7, plus 10, ou DNA plus je ne sais trop quoi. La politique, c'est du bon sens, de la lucidité, du courage et de la continuité dans l'action. Ce sont les qualités que Mao Tse-tung a mises en évidence lorsqu'il a défini une triple stratégie. Stratégie nationale d'abord, le Parti communiste prenant la direction des forces de résistance à l'envahisseur japonais et à travers lui à toutes les autres forces extérieures. Stratégie militaire ensuite, et cela, il avait cela en commun avec les autres communistes du reste du monde, qui ont toujours été plus ou moins des partis politiques militarisés, stratégie paysanne enfin, et c'était la grande surprise, ce que Staline avait eu tant de mal à accepter, lui qui était l'héritier d'un pouvoir urbain, prétendument ouvrier. Donc, je dirais que cette question donc, du rapport avec le monde est fondamentale, parce que c'est parce qu'il s'est imposé comme le meilleur pour répondre aux défis de l'Occident, plus généralement du monde extérieur, que le Parti communiste est arrivé au pouvoir. C'est enfin parce qu'il offrait les moyens, un pré-apporté, disons, idéologique, une mécanique stratégique crédible, qu'il a été au début accueilli dans un enthousiasme dont on a peu idée aujourd'hui. Nous considérons souvent le passé avec une forme de simplisme, et le communisme, parce qu'il donne l'impression d'avoir échoué, mais avait-il échoué à ce pourquoi il était venu au pouvoir, c'est une autre affaire. En tout cas, nous avons tendance à penser que le communisme a toujours été détesté. Je pense au contraire qu'il ne l'a pas été au début, mais je pense aussi qu'on ne fait de grands massacres qu'à partir de grands enthousiasmes. Alors, je voudrais commencer tout d'abord par le premier paradoxe qui porte sur la politique suivie par Mao Tse-tung et ses difficultés. Le paradoxe est en effet que, arrivé au pouvoir grâce à la netteté de son refus du monde extérieur et de sa domination, grâce à la crédibilité des moyens qu'il proposait pour échapper à cette domination, le communisme maoïste a en fait poursuivi une ligne en matière de relations avec le reste du monde, composite et finalement peu efficace. Vous pourrez me dire que cela n'est pas en soi totalement exceptionnel. En effet, le communisme au pouvoir a toujours été, dans le communisme au pouvoir, la politique étrangère a toujours été exceptionnelle par rapport à la politique intérieure, à la fois parce que elle ne pouvait jamais éviter un élément d'adaptation inévitable avec un monde qui était difficile à maîtriser totalement, qui était extérieur, et en même temps parce que les résultats n'ont jamais été totalement cohérents avec l'idéologie internationaliste ou même l'idéologie de nationalisme révolutionnaire qui les poussait. Il y a là, je dirais qu'il y a quelque chose de commun aux politiques étrangères de tous les communistes au pouvoir, c'est leur caractère composite et finalement assez paradoxal, soit que l'internationalisme ait été préféré, dans ce cas-là, c'est les intérêts du pays qui avaient été négligés, cas des pays d'Europe de l'Est, soit que ce fut au contraire des intérêts impériaux et finalement, dernière analyse, nationaliste qu'il est emporté, comme ça a été le cas de l'Union soviétique et finalement, d'ailleurs, nous y reviendrons, de la Chine. Alors, le nationalisme révolutionnaire de Mao Tse-tung, quel était-il ? D'abord, le point central, c'est que le nationalisme est l'élément de base chez Mao. Si j'avais plus de temps, je pourrais disserter là-dessus. Par exemple, en prenant appui sur les premières publications de Mao Tse-tung, dont l'une porte sur l'éducation physique. Or, les historiens du sport font un lien très direct entre la réflexion nationaliste, notamment en Europe centrale au siècle dernier, et la fondation de la gymnastique, la réflexion sur le sport. Il y a un lien originel entre sport et nationalisme. C'est une des voies d'approche de la pensée maoïste dans laquelle la composante nationaliste est, je dirais, première. Mao Tse-tung et derrière lui Deng Xiaoping, derrière lui Liu Shaoqi et d'autres, sont d'abord des paysans nationalistes décidés à en finir avec l'humiliation et aussi avec la collaboration, le vichisme, si je puis dire, les collaborateurs chinois de l'impérialisme. Et c'est très largement à partir de l'idée que l'exemple soviétique, la révolution de 1917, la capacité de l'Union soviétique de résister à l'encerclement dont elle est victime à ses débuts, c'est très largement ce succès de l'Union soviétique qui va, comme Mao Tse-tung l'a dit d'ailleurs très tôt à une de ses biographes, sonner vraiment les trois coups de la révolution chinoise. Le Parti communiste chinois a été fondé peu de temps après, je n'entre pas dans les détails, la révolution de 1917. Donc le nationalisme est premier, il est originel, mais il est clair que le lénino-stalinisme a fourni une sorte de vocabulaire et aussi a ajouté un programme social et de type communisant, puis franchement communiste, à ce nationalisme originel. Le lien étant la conception de l'impérialisme. C'est parce qu'il y a un impérialisme qui est à la fois l'ennemi de la Chine en tant que nation et l'ennemi du peuple chinois comme de tous les peuples du monde, qu'il faut que la Chine s'oppose à l'impérialisme, qu'il faut qu'elle se lie à tous les autres peuples du monde. Dès lors, l'anti-impérialisme l'emportant sur le nationalisme au sens strict, le lien avec la cause internationaliste paraissait évident, en même temps que le contenu nécessairement social du programme des communistes. Et donc, le nationalisme originel de Mao Tse-tung va se doubler, sans de disparaître jamais, va se doubler d'un internationalisme qui va être non seulement dans le langage, mais également dans une collaboration avec Moscou, qui sera d'une extrême importance au tout début du communisme chinois, mais même d'ailleurs jusqu'à la veille de la prise du pouvoir. Il y aura des sombres histoires de wagons plombés, il y aura des convois d'aide de Staline aux dirigeants communistes chinois, même s'il n'y avait pas un enthousiasme considérable de part et d'autre, Staline considérant notamment, comme Milovan Gilas, que le communisme chinois, le maoïsme était au communisme ce que la margarine est au beurre. Mao Tse-tung, donc, était à la fois très profondément nationaliste, mais en même temps, il s'était convaincu au communisme et à un idéal internationaliste. Tout cela formait un ensemble qui, très rapidement, s'est avéré très difficile à combiner. Et on l'a vu très rapidement, 49-50, parce que les communistes chinois ont solidement hésité. Je passe rapidement. Ils ont pensé un moment, ils avaient plutôt un bon souvenir des militaires américains, avec leur côté efficace, etc. Les militaires américains adoraient les communistes chinois. Le communisme, pour certaines personnes solidement conservatrices, c'est toujours très bien ailleurs. Et donc, il y avait eu de très bons contacts avec les militaires américains. Et tout n'était pas dit entre Mao Tse-tung et les Américains avant la formation de la guerre froide. La guerre froide limitait le choix. Et dès lors, les communistes chinois semblent avoir un certain temps hésité entre une ligne franchement révolutionnaire, une ligne dans laquelle, bien sûr, il y aurait une alliance avec Moscou, mais quand même la Chine étant une sorte de phare pour tous les peuples du monde, pour tous les peuples indigènes, pour tous les peuples colonisés. Et ça n'est qu'à cause de la guerre froide, de la guerre de Corée notamment, et en particulier aussi des besoins de l'économie chinoise pour sa reconstruction et son plan quinquennal, que Mao Tse-tung, sans trop d'enthousiasme, s'est tourné vers Moscou. Et toute la décennie des années 50 va être une décennie extrêmement intéressante, où l'alliance avec Moscou, extrêmement inégale, sera payée d'ailleurs de façon assez chiche par Moscou, d'une aide soviétique tout à fait considérable, dont on voit les traces lorsqu'on se rend sur place, les postes, les gares, mais aussi le vocabulaire, mais aussi l'appareil de propagande, mais enfin l'organisation même du pouvoir. On peut dire que ce compromis extérieur va se doubler d'une véritable hybridation intérieure, ce qui m'amène, par parenthèse, à faire une réflexion, c'est qu'on a maintenant oublié, là aussi, l'influence du modèle soviétique sur toute une série de régimes intérieurs. L'Union soviétique a véritablement séduit très très profondément. Il y a eu une période où les dirigeants chinois ont fait ce qu'ils pouvaient, ils se sont vite rendus compte, on devait y venir, qu'ils pouvaient peu, pour hybrider leur pays, pour le soviétiser. Et c'est toute cette période avec des dessins sur lesquels on voit des paysans chinois dirigeant des tracteurs de style ukrainien sur fond, disons, d'usines. C'était l'avenir tel que la Chine, pourtant, la Chine communiste, pourtant sortie des rizières, cette Chine communiste se donnait. À la fin des années 50, Mao Tse-tung a brutalement viré de bord. D'abord, il faut le dire, les dirigeants soviétiques l'énervaient solidement, alors que lui-même avait une modestie de moins en moins affirmée sur son propre personnage, mais aussi et surtout, d'abord parce qu'il y avait un changement du climat international, c'est-à-dire une coexistence pacifique qui amenait les Soviétiques à travailler avec les Américains pour organiser la compétition mondiale, et donc finalement qu'il ne laissait plus guère de place à une Chine qui, par ailleurs, et c'est le dernier facteur, tombait, j'allais dire sombrait, dans une véritable hystérie utopique qui a été à l'origine du grand bond en avant, cette espèce de mouvement pharaonique dont la conséquence a été, les spécialistes hésitent encore, entre 20 et 50 millions de morts de faim. La Chine de cette époque, la Chine du grand bond en avant, estime que l'Union soviétique a trahi à l'extérieur, elle a trahi à l'intérieur. Mao Tse-tung ne veut plus de cette liaison et à partir de 1959, d'ailleurs assez, de façon au début assez masquée, il va se tourner vers une politique internationaliste, c'est l'autre terme de l'alternative, une politique dans laquelle la Chine se tourne vers le reste du monde, ou plutôt vers les peuples du monde, contre les villes du monde, des villes dans lesquelles il apparaît de plus en plus que l'Union soviétique figure comme une deuxième métropole. Je passe les détails. Ce qui est intéressant à noter, c'est deux choses. C'est d'une part que ça a été assez difficile à prendre, ce virage, parce qu'il y avait quand même des intérêts d'État. Et on retrouve cette contradiction que le communisme au pouvoir a toujours de manier l'ambition utopiste et d'autre part les intérêts d'État en matière de politique étrangère. Et d'autre part, le deuxième point à noter, c'est que tout ça a abouti à une catastrophe extraordinairement dangereuse. Je passe les détails, je pourrais vous parler de l'effondrement de certains communismes étranglés ou assassinés dans la rizière, je pourrais vous parler du massacre des communistes indonésiens, je pourrais vous parler des petits malins et pour cause vietnamiens qui eux se défendaient, qui ont vite compris qu'il valait mieux trahir le modèle chinois plutôt que de risquer la vie du dernier Bodoy de Hanoï. Je dois surtout vous parler des risques pris à l'époque de la révolution culturelle, le délire utopique, la mobilisation désordonnée des gardes rouges, la destruction de l'appareil productif et bientôt de l'administration chinoise. Brejnev, lui, de son côté, comme vous le savez sans doute, consolidait l'appareil militaire soviétique sur la frontière. Et quand, après de solides provocations de l'armée de Lin Piao, du genre « montrez-vous si vous êtes des hommes », etc., les divisions blindées soviétiques se sont fâchées, un jour de mars 1969, elles sont entrées dans les lignes chinoises comme dans du beurre et Pékin était à quelques jours de tanks de la frontière. Mao Tse-tung va se retourner alors à toute allure et on voit là quand même la grandeur du personnage qu'il affilie à la catégorie des grands squales de l'histoire mondiale. En quelques mois, il va se virer de bord totalement pour se tourner du côté occidental. Il va en effet placer au cœur de ses préoccupations la lutte front anti-hégémonique, anti-soviétique, rechercher la protection des Américains et l'amitié de tout l'Occident, Europe comprise. Laissons ici les nuances, les moments dans cette évolution. Quand Nixon arrive à Pékin en février 1972, il est clair qu'il y a maintenant en Extrême-Orient un front anti-soviétique dans lequel les Chinois et les Américains collaborent plus ou moins directement. Cela causera, par parenthèse, une série de drames, et notamment au Cambodge, parce que la durée au pouvoir des Khmers rouges, 50 massacres, ça fait quand même beaucoup, et ça se savait dans la région, n'aurait pas été pensable s'il n'y avait pas eu un véritable, il faut bien le dire, complot entre la CIA et les services chinois pour laisser les Khmers rouges pro-chinois tranquilles dans leurs hautes et basses œuvres. Cette décennie va donc être la décennie du front stratégique avec Washington et elle va quand même aboutir à des résultats plutôt plus marquants que ceux de la décennie précédente. C'est une décennie qui va accroître la protection de la Chine contre une menace soviétique qui, à un moment, a failli devenir atomique. Et il est clair que les Américains ont joué leur part dans cette espèce de jeu et que, quand Mao Tse-tung meurt en 1976, il laisse, disons, il laisse à ses successeurs une idée, s'allier avec l'Occident. Il faut bien le dire aussi, piller la volaille occidentale en important à bon prix des usines pas chères. Donc non seulement une alliance stratégique, mais un pillage économique qui paraît à l'époque un calcul intéressant pour l'avenir. Si bien que quand Deng Xiaoping est arrivé au pouvoir, et j'entre dans mon deuxième point, il avait sur sa table en quelque sorte un élément de programme qui était sans doute le moins contestable dans l'héritage de Mao Tse-tung. Sur le plan intérieur, en revanche, Deng Xiaoping avait beaucoup plus de doutes, ayant lui-même, depuis des années et des années, eu l'occasion de se rendre compte de la frénésie utopique qui avait saisi le démiurge qui était devenu Mao Tse-tung. En revanche, s'il avait des réserves sur le plan de la ligne intérieure, il avait une appréciation très positive de l'héritage stratégique de Mao Tse-tung. Et la politique qu'il va adopter va être à l'image du personnage. Il y a peu de personnages aussi différents l'un de l'autre que Deng Xiaoping et Mao Tse-tung. Mao Tse-tung était un Chinois assez grand, un Chinois porté vers les hauteurs. Il parlait souvent d'ascensionner les cimes de l'utopie. Il avait fait cette déclaration terrible que la Chine était comme une page blanche et que sur une page blanche, on peut toujours écrire de plus beaux poèmes. Le résultat a été sanglant. Il a été du rouge sur la page. Deng Xiaoping, en revanche, c'est un tout petit homme, 1m50, j'allais dire, vent en poupe et toute voile dehors, bossu, un homme... Mao Tse-tung était un grand paresseux, quelqu'un qui lisait de la poésie au bord de sa piscine, qu'il avait d'ailleurs accaparée pour lui tout seul, la piscine du comité central, s'amusant avec des cargaisons de soldats que lui fournissait son bureau des affaires générales. Deng Xiaoping, lui, est au contraire un homme de vertu domestique, un homme qui sera très fidèle à son épouse, sa famille, mais aussi à son pays. C'est un nationaliste qui s'est vanté d'ailleurs de n'avoir jamais lu de Marx que le manifeste du Parti communiste, donc Marx et Engels, le manifeste du Parti communiste, et pour le reste d'avoir surtout connu le marxisme à travers Lénine et surtout Staline, et surtout d'ailleurs ce qu'il y a de bon dans le marxisme, c'est que ça, c'est le léninisme, ce qu'il y a de bon dans le léninisme, c'est quand ça marche. Quand ça ne marche pas, on prend autre chose. C'est donc cet élément, disons, de réalisme, voire de cynisme, qui va différencier Deng Xiaoping, qui va conduire une politique réaliste, masquée et véritablement cynique, qui va combiner une libéralisation intérieure avec une ouverture extérieure masquée et contrôlée. Deng Xiaoping ne pouvait pas tout dire à l'avance du programme qui serait le sien, pour deux raisons que je crois on comprend sans trop de difficultés. La première, c'est que vraisemblablement il ne savait pas complètement ce qu'il voulait, ce qui arrive souvent. La seconde, c'est que, en tout cas, il ne pouvait pas le dire à un parti qui sortait de la révolution culturelle et dans lequel des myriades de quadrillons devaient leur pouvoir et leur prébende, lesquels étaient surtout la survie assurée, et quelques colonies de vacances pour les enfants. Pour le reste, c'était une vie difficile pour presque tout le monde, plus difficile pour les uns que pour les autres, certes, mais ces gens-là n'auraient pas du tout compris un programme affiché clairement. Et donc, Deng Xiaoping, au début, va avoir un propos axé sur la modernisation de la Chine pour réaliser le vieux programme nationaliste, en clair, on ne le dit pas trop fort, pour pouvoir, dès que possible, régler le compte de l'Occident, mais un peu un calcul à la japonaise, un calcul de type Meiji, mais sans le côté public qui avait été celui de Meiji, c'est-à-dire sans le côté assimilons clairement tout ce qu'il y a de bon en Occident. Il y a surtout le côté développons-nous, commerçons avec l'Occident, aspirons ces techniques, mais de façon contrôlée et surtout en évitant que l'influence idéologique de l'Occident ne corrompe le parti et l'État. En fait, je crois que son calcul était justement que cette idéologie corrompe le parti. Parce que la seule explication du fait que l'affaire ait marché, c'est justement la corruption du Parti communiste. Vous avez, mesdames et messieurs, en face de vous, un partisan résolu, dans certaines conditions, dans certains cas, de la corruption. Je considère qu'il y a des situations historiques dans lesquelles la corruption est le trajet le plus court d'une politique meurtrière à une politique qui laisse germer des parcelles, des fumerolles d'abord d'humanité, puis tout simplement le goût des bonnes choses, et avec le goût des bonnes choses arrive très vite le goût de la musique, la peinture, etc. Analyser les histoires familiales des dirigeants chinois actuels, il n'y a pas un dirigeant chinois du bureau politique qui n'ait pas dans sa famille au moins un comprador, quelqu'un qui gagne sa vie à la combine finalement, à transférer des fonds, y compris des fonds publics, de façon tout à fait contestable. Analyser les trajectoires en Occident des délégations chinoises, et vous verrez très souvent qu'elles passent en Suisse pour relever les compteurs. Et tout ça, et bien souvent aussi d'ailleurs, s'arrête dans des théâtres, des opéras, etc. Il n'y en a pas un qui n'ait pas dans sa famille un petit-neveu qui ne soit pas dans une université américaine et qui refuse solidement de rentrer en Chine, nous y reviendrons. Donc tout ça, je crois, est un des éléments les plus sérieux, disons, de l'évolution de la Chine. Et on ne comprend pas que Deng Xiaoping ait pu aller plus loin dans l'ouverture si le Parti communiste chinois ne s'était pas littéralement transformé dans ses entrailles elles-mêmes, c'est-à-dire s'il ne s'était pas transformé en parti prédateur. C'est ce qui explique tout ça, à mon sens, fondamentalement, que l'ouverture dans les années 80 était une ouverture au début extrêmement prudente et contrôlée. Deng Xiaoping ouvre quelques zones économiques spéciales. Il autorise, il libère un certain nombre de domaines au commerce extérieur, mais dès qu'une menace, dès que la dissidence se précise, dès qu'apparaissent des poètes qui exagèrent un peu, à ce moment-là, sa police arrive. Dès qu'un attroupement de plus de 5 personnes se forme, la police se présente le lendemain matin. Ce n'est pas le laitier, c'est la police qui se présente le lendemain matin à 5 heures. C'est vraiment une politique, disons, duale qui est mise en place. D'une part, je tiens le pouvoir serré dans la main. D'autre part, j'ouvre précautionneusement les domaines les uns après les autres. D'abord, quelques zones économiques spéciales, quelques domaines. Puis, à partir de 1984, progressivement, le commerce avec l'Occident va devenir possible dans l'ensemble des métropoles chinoises et la diffusion des biens et aussi des idées occidentales va, pour le délice de l'ensemble de la société urbaine et notamment des cadres, la diffusion va s'élargir au point qu'il ne sera plus possible d'empêcher que la dissidence devienne une force véritablement sérieuse. C'est toute l'histoire de 1989 qui, cependant, n'aurait pas été possible, même le mois de mai et le juin tragique, le 4 juin, Tiananmen, les chars chinois, le massacre, 1500 morts, probablement, tout ça n'aurait pas été possible cependant s'il n'y avait pas eu, à l'intérieur du parti chinois, une division très forte entre ce que j'appellerais les Gorbatchéviens et les Tenguistes de stricte obédience. Les Tenguistes défendaient une ligne politiquement conservatrice et éthiquement ouverte à tout, alors que les Gorbatchéviens, eux, étaient probablement plus authentiquement communistes et cherchaient à faire, un peu à la Dubček, une sorte de compromis authentique avec ce qu'il restait de mariable avec le communisme dans le socialisme historique, dans les 30 traditions humanistes. Et c'est ce qui les a poussés à chercher le compromis avec l'émeute étudiante. Le résultat, vous le connaissez, Deng Xiaoping s'est d'abord débarrassé avec une sagesse absolument extraordinaire. Il s'est d'abord débarrassé des Gorbatchévistes et notamment de Zhao Ziyang, toutes choses égales par ailleurs. Je dis Gorbatchévien, c'est en gros, c'est une tendance de compromis avec les idées humanistes. Il y a par ailleurs d'autres idées qui viennent plutôt du reste de l'Asie, notamment Singapour, un pouvoir, disons, autoritaire mais vertueux, etc., etc. En tout cas, après avoir liquidé les responsables de la tendance gorbatchévienne, il va progressivement enserrer Pékin et au petit matin du 4 juin liquider la révolte étudiante, après avoir laissé tomber avec froideur et beaucoup de sûreté de lui qu'il faut savoir tuer les poulets pour effrayer les singes, ce qui est un vieux proverbe chinois. Et la vérité, d'ailleurs, quand on regarde les choses avec objectivité, on peut dire qu'il y a quelque chose qui l'a tué. C'est l'idéal démocratique, pour toujours, je ne pense pas, mais pour longtemps. Mais qu'en revanche, c'est vrai que son calcul, comme bien souvent ses calculs, était d'une efficacité redoutable, parce qu'on peut penser que se libérer d'une émeute aussi dangereuse, répandue dans toutes les grandes cités de Chine, pour un prix qui, à échelle d'un pays d'un milliard et quelques millions d'habitants, est relativement réduit, c'était une performance extraordinaire. Et plus extraordinaire est encore la conclusion que Deng Xiaoping va tirer du massacre. En effet, au même moment où les belles âmes, j'ai figuré à leur nombre pendant quelques mois, en Occident, criaient au scandale, au désastre pour la Chine en général, pour la cause des droits de l'homme et pour tous les grands principes humains en Chine, Deng Xiaoping, lui, tirait de ce massacre la conclusion exactement inverse. Comme tous les grands squales de l'histoire du XXe siècle. Staline a fait ça abondamment, De Gaulle dans un tout autre contexte, il n'y a pas dans des contextes de massacres aussi caractérisés. Mais enfin, les grands squales ne savent ne pas se laisser entraîner par la logique politique d'un coup politique qu'ils viennent de faire. Ils savent au contraire penser que si vous tapez à gauche, c'est justement le moment, si vous tuez la gauche, c'est justement le moment de faire une politique de gauche, puisqu'évidemment votre pouvoir ne sera pas menacé par la gauche elle-même, puisque vous venez de la démanteler. Donc Deng Xiaoping va faire ce calcul-là, c'est justement parce qu'il vient de démanteler les partisans les plus effrénés de l'ouverture sur l'Occident qu'il va accélérer l'ouverture sur l'Occident dans un ultime coup d'État, on peut dire, qui est une des choses les plus extraordinaires de l'histoire chinoise du XXe siècle. L'homme a 88 ans, imaginez. L'histoire des grands hommes revient dans beaucoup de domaines, d'autres conférenciers l'ont certainement dit. Hein. Quand même, le triomphe de Deng Xiaoping tient très largement à un hasard médical extraordinaire. L'homme est né quand même en 1904, c'est donc à l'âge de 74 ans qu'il reprend le pouvoir en 1978, et c'est à l'âge de 88 ans qu'il rend pratiquement décisive et définitive l'entrée de la Chine dans le monde. 1992, en effet, dans un ultime effort auquel il ne survivra pas. Ensuite, Deng Xiaoping sera très affaibli et s'alitera et il disparaîtra en 1997. Dans un ultime effort, il va purger l'armée, l'appareil de propagande et le parti dans une moindre mesure, parce que le parti digérait, était très occupé à digérer les avantages de l'ouverture, il n'y a pas de grand problème de ce côté-là. Il va purger l'armée pour l'essentiel de ses opposants à l'ouverture. Il va la rendre cette fois-ci définitive en poussant en avant des thèmes que ses successeurs trouveront intérêt à développer, notamment ce thème ambigu au possible qui définit la situation de la Chine depuis, cette idée tout à fait invraisemblable d'économie socialiste de marché. Allez donc savoir qu'est-ce que signifie socialisme. Moi, je traduis, c'est une économie qui va dans le marché, mais comme peut y aller une économie dirigée par un parti communiste, au sens où ce parti communiste est un ensemble confus d'administrations bureaucratiques et de mafias prédatrices. C'est à peu près ça, l'économie socialiste de marché, c'est l'entrée dans le marché dirigée par les féodalités et les administrations. Il y a de tout, il y a des mafias pures et simples, il y a des administrations qui font leur travail. L'actuel Premier ministre chinois est un type formidable. Bien d'autres, si vous voulez, sont à vendre et le disent d'ailleurs sans trop de difficultés. La Chine va, entre 1992 et 1999, s'engager de façon de plus en plus définitive sur la double voie du marché mondial d'un côté et sur la voie d'une libéralisation très féodalisée, très contrôlée encore par l'État au sens où je viens de le dire, c'est-à-dire un État qui est le moyen d'un parti lui-même divisé en féodalité et en administration ou en secteur d'intérêt, souvent contradictoire, pas toujours. Et ça ne va pas être si facile que ça, parce que, d'abord pour une série de raisons qui vont apparaître dans un instant, mais aussi parce qu'il restera des oppositions, des difficultés, et qu'il y a dans la population chinoise des gens qui veulent plus, plus vite, etc. Les dirigeants chinois réussiront avec une très remarquable habileté à danser sur un pays qu'une journaliste, dans un récent livre que je vous recommande, Ursula Gauthier, dans le livre Le volcan chinois, a appelé donc la Chine un véritable volcan. Je crois que s'il est un métier dont personne ne voudrait vraisemblablement en Chine même, et c'est pourquoi d'ailleurs il y a de moins en moins de candidats pour l'occuper, à l'intérieur même du parti, c'est de diriger la Chine. Enfin, je crois que c'est abominablement difficile de diriger une transition sort la Chine d'une situation aussi tragique, c'était le cas d'avant 1949, c'était le cas de la Chine maoïste, qui, pour la plonger, et il y a peu d'autres moyens de faire, tout de suite dans une mondialisation où tout fonctionne à toute allure, de là des changements invraisemblablement rapides, des oppositions, des inégalités, des émeutes partout. Bref, il faut une capacité de contrôle de soi d'abord et de compromis et de contrôle d'un appareil politique divisé en mafia et en groupes d'intérêt et en administration bureaucratique de l'autre. Et il faut bien dire que contre toute attente, l'actuel dirigeant chinois, M. Jiang Zemin, s'en est très très bien débrouillé. De plus, il faut dire également que les résultats économiques et sociaux de cet effort sur 20 ans sont des résultats objectivement remarquables. Plus 9% en moyenne de PNB en 20 ans par an, même si la statistique est vraisemblablement exagérée de 2 points, c'est un résultat formidable. Ça signifie, pour vous donner un exemple, que mon ami Wang, qui est dans une petite ville du Fujian, sur la côte, et qui a commencé sa fortune comme réparateur de bicyclettes, vend aujourd'hui des camions et qu'il a déjà 2 concubines à Hong Kong, une à Los Angeles, etc., etc. Ça veut dire également que le nombre des que le nombre des pauvres qui étaient aux alentours, c'est-à-dire ceux qui étaient en insuffisance alimentaire radicale, qui étaient aux alentours de 300 millions vers 1970, qui est encore aux alentours de 250 millions dans l'Inde d'aujourd'hui, qui, vous le savez, vient de dépasser le milliard d'habitants. Le nombre des vraiment de ceux qui meurent ou qui sont menacés de mourir de faim est tombé vraisemblablement quelque part entre 60 et 100 millions. Pour une population d'un milliard 3, c'est quand même un résultat formidable, d'autant que se crée une couche sociale bourgeoise, moderne, ouverte, très minoritaire encore, mais il est hors de doute que le changement est à la fois global et qu'il est qualitatif dans certaines zones sociales. Le problème, et ça va être mon troisième point, c'est que cette ouverture remarquablement brillante que le Parti communiste a conduit avec d'autant plus d'habileté qu'il en avait de plus en plus l'appétence, l'appétit venant en mangeant, cette ouverture précipite en fait la Chine dans une trappe extraordinairement difficile à négocier. Je crois qu'il y a deux grands pièges. Le premier, le piège économique ou induit par l'économie, n'étant probablement pas le plus grave, c'est vraisemblablement la nature même du monde globalisé, comme le disait Yves Michaud, qui pose à la Chine un problème difficilement dépassable. Le premier point, les dirigeants communistes chinois l'avaient d'emblée, le premier danger, les dirigeants communistes chinois l'avaient d'emblée prévu. Ce premier danger, c'est le piège du commerce, c'est le piège des investissements. Les biens, ce sont aussi des hommes, ce sont des femmes, ce sont aussi des idées, ce sont des goûts. C'est que le prototype du bel homme dans la Chine d'aujourd'hui, c'est encore Alain Delon. Le prototype de la belle femme, c'est, à vrai dire, je ne sais plus qui, mais c'est une des actrices américaines. D'ailleurs, la beauté a toujours une image, c'est toujours extraordinaire, même dans les grandes publicités, presque toujours, la beauté porte des cheveux blonds. Hein, la beauté féminine est en cheveux blonds. C'est-à-dire que le commerce avec l'Occident a entraîné, malgré tous les filtrages, malgré des manipulations d'une habileté extraordinaire, il faudrait que Citroën accepte de nous parler de ses difficultés d'implantation près de Wuhan. Les commerçants étrangers se font bien souvent piller comme en plein bois. S'il ne s'agissait pas de la Chine et si on ne craignait pas de passer pour un imbécile dans les cocktails, on dirait la vérité. La vérité, c'est que rares sont les grandes entreprises internationales qui font de l'argent en Chine. Qu'aller en Chine est un événement mondain et un élément de stratégie à 20 ou 50 ans, et que jusqu'à nouvel ordre, ce sont surtout les entreprises taïwanaises d'origine ou bien japonaises à un moindre titre, qui, elles, savent faire suer, si je puis dire, le chinois, qui font de l'argent. Les occidentaux, eux, n'en sont guère capables. Je crois que ce désir d'Occident qui se répand en Chine est un désir qui est doublement dangereux. D'abord parce qu'il saisit toutes les élites et qu'il remplace progressivement les normes d'avant-hier, les normes pré-communistes, les normes communistes et les normes d'hier, les normes communistes, par de nouvelles normes, beaucoup plus individuelles, que l'économie chinoise actuellement n'a pas toujours les moyens de payer aux gens. C'est-à-dire, les revenus s'accélèrent, mais maintenant tout le monde a envie de voyager dans les villes. Donc vous avez une Chine de 300 millions de personnes qui rêvent d'Occident, et cette Chine-là, elle est par définition insatisfaite du présent, même si son présent marque une extraordinaire amélioration par rapport à il y a quelques dizaines d'années. La deuxième difficulté, c'est qu'il y en a qui progressent moins vite que les autres vers la réalisation de ce désir d'Occident, et ce sont tous ceux qui vivent loin des villes, et se recrée ainsi, entre les campagnes et les villes, une très ancienne différence, un très ancien fossé, aussi ancien que le mandarinat, aussi ancien que la Chine impériale, qui oppose ceux qui ont accès, je dirais, à la civilisation Hier, c'était la civilisation impériale, la civilisation de cour. Aujourd'hui, c'est la civilisation occidentale. Et ceux, d'autre part, qui croient qu'ils n'y auront que très difficilement ou jamais accès. C'est la réalité psychologique qui est derrière une situation sociale où dans les villes, on se plaint très, très facilement, où les émeutes éclatent très vite, d'autant que le pouvoir est contraint de purger ses entreprises d'État déficitaire. Et d'autre part, dans les campagnes, pour des raisons d'injustice fiscale ou d'autoritarisme des cadres locaux. Mais derrière tout cela, il y a ce sentiment dans les campagnes d'être laissé derrière, d'être en arrière et de ne pas avoir accès à la jouissance, disons, qui définit l'Occident. Les Chinois, qu'ils aiment ou non l'Occident, sont infiniment persuadés que l'Occident est une caverne d'Ali Baba, une sorte de monde où tout est possible et où tout ce qui est difficile en Chine devient accessible, liberté sexuelle, etc., etc. De là, d'ailleurs, un sentiment très ambivalent, parce que les mêmes qui admirent l'Occident parce qu'il est immoral, le détestent et le méprisent parce qu'il est immoral. Et la même admiration qui est prônée à l'égard de l'Occident se retourne très souvent, dès lors qu'il y a un incident diplomatique, en haine de l'Occident. Et ce sont les mêmes qui, la veille, faisaient la queue devant le consulat américain à Pékin, qui, le lendemain, après bombardement de l'ambassade chinoise à Belgrade en mai 1999, défilent devant pour demander que les États-Unis s'excusent, etc. Le deuxième grand piège, c'est le piège tendu par le monde. Le monde, en effet, le monde d'après la guerre froide, tend un piège double à une Chine qui a déjà beaucoup à faire avec ses transformations intérieures. Le premier piège, c'est que la Chine croyait rentrer dans un monde où elle pourrait jouer un rôle de grand troisième, qui était le monde de la guerre froide, où elle pourrait jouer plus pleinement, continuer ce jeu, mais de façon plus pleine et plus efficace, que Chou En-lai avait entrepris entre Washington et Moscou. Pas de chance, 1989 arrive, 1991 arrive, il n'est plus question de guerre froide, le monde est monopolarisé, et maintenant il n'y a plus qu'une superpuissance, une hyperpuissance pour parler comme Hubert Védrine, et dès lors, eh bien, le monde dans lequel rentre la Chine est un monde dans lequel il va falloir passer sous les fourches caudines des États-Unis. De là le problème immense de la diplomatie chinoise, qui est une diplomatie naturellement nationaliste et orgueilleuse, et qui est comment négocier avec l'hyperpuissance quand, par ailleurs, on est l'héritier du grand nationalisme, d'un nationalisme forgé, disons, dans la lutte contre l'impérialisme. Deuxième problème, c'est la transformation de la texture même du monde. Le monde a changé dans sa texture. C'est-à-dire, ce n'est plus un monde où ce n'est plus seulement un monde d'État, c'est un monde de réseau, ce n'est plus seulement un monde d'État qui s'oppose et de diplomatie, c'est un monde de flux économiques, flux financiers, flux sociaux, et c'est un monde dont tous ces flux tiennent plus ou moins leur origine dans les grandes métropoles occidentales et d'abord les métropoles des États-Unis. La crise financière asiatique qui a saisi tout le continent, la Chine comme les autres en 1997-98, est partie d'une panique qui a eu lieu dans les bourses américaines à propos du risque asiatique. Et les Chinois se trouvent donc dans un monde qui a tout d'un coup accéléré complètement son fonctionnement, ses mutations internes, une économie qui s'est transformée en proportion, la e-économie, alors qu'elle croyait tomber dans un monde où elle pourrait opérer son phénomène de rattrapage technologique et politique sans grande difficulté. De là, pour moi, un danger absolument formidable pour la Chine, que je n'ai pas le temps de dire autre que, premièrement, un danger national, et deuxièmement, social, et troisièmement, culturel. National, parce que c'est la cohésion de la nation chinoise qui est mise en jeu par l'attraction de l'Occident et des États-Unis. On connaît maintenant les statistiques et on sait que sur 20 ans, un cinquième seulement des étudiants chinois partis aux États-Unis sont rentrés en Chine. On sait que le quart des PhD américains en sciences dures sont faits par des Chinois ethniques ou nationaux et la moitié de ce quart par des Chinois nationaux. Bon, il y a une attraction américaine fantastique et une attraction occidentale. Deuxièmement, social, parce qu'il y a une sorte de distension du tissu social terrible à cause justement de cette attraction de l'outre-mer. Ensuite, problème culturel, parce que la culture chinoise est une culture qui a toujours eu un problème avec l'innovation. L'innovation présentée comme telle. La Chine a inventé des choses, mais en général sans dire qu'elle l'inventait. C'est-à-dire L'innovation ne procède pas en Chine de la même façon qu'en Occident, alors même qu'elle est dans un monde où dites-moi à quel point vous innovez et je vous dirai ce que vous pouvez faire. Alors je voudrais conclure très vite en trois points, hein, ça va Yves ? Je voudrais conclure très vite en quatre points plutôt. D'abord, du coup j'en ajoute un, voilà, ça c'est une combine classique de collègues. Premier point quand même pour dire que le cas de la Chine rappelle que le communisme, parce qu'il y a communisme dans mon titre, n'a pas du tout été le même partout. Et qu'en Asie notamment, la composante nationale a partout été fondamentale. Ce qui d'ailleurs explique, je n'ai pas le temps de poursuivre mon raisonnement, que le communisme ait été plus solide, beaucoup plus solide qu'en Europe orientale, parce qu'il avait beaucoup plus réellement respecté l'impératif de défense des intérêts nationaux. Et donc, ce nationalisme a joué dans beaucoup de sens. Deuxième point, en revanche, ce que je veux dire, c'est que, comme partout ailleurs, le communisme chinois est en train de céder la place. Et il est en train de céder la place, inéluctablement, au Vietnam et en Corée du Nord. Le mécanisme a commencé il y a quelques mois. Là-dessus, c'est clair. Deuxième point, le communisme est en particulier mis en danger par ce que j'appellerais une triple fuite. Il fuit à la fois par la tête. Il n'y a plus un communiste idéologique où il y a toujours évidemment des snobs et des arrivistes, mais il n'y a plus de convaincus. Par les bras, parce que pour contrôler sa société, il est obligé d'étendre ses bras à l'infini, et finalement, ses bras se constituent eux-mêmes en cellules, disons, de l'avantage mutuel. Par les pieds, enfin, parce qu'il se laisse de plus en plus entraîner par ses constituants, par une atmosphère sociale qui, dans les campagnes, va plutôt vers le retour un peu aux traditions et dans les villes, vers le désir d'Occident. Avant-dernier point, se pose en Chine un problème de nation et un problème de culture gravissime, et ce qui, à mon avis, amène à penser que la crise chinoise est retardée par rapport à la crise russe, mais qu'elle n'est pas du tout impensable dans un avenir qui n'est pas si éloigné. Et je voudrais enfin dire que tout cela n'est pas indifférent pour le monde. Non pas à cause de ce qui est souvent dit. Ah, ma pauvre dame, ils sont si nombreux, imaginez ce qui va se passer quand un beau jour, vous savez, là, cette théorie des vases communicants, dont tous les démocrates vous diront qu'elle n'a aucun sens. En revanche, la Chine est un danger, mais pour sa région, c'est vrai. La Chine s'entend mal avec tous ses voisins. Malheureusement, elle s'entend bien avec la Birmanie. C'est dommage, parce que c'est par la Birmanie que transite une partie de la drogue produite en Birmanie, et sans parler comment dire, de ce qu'il faut penser des généraux birmans, à mon sens, beaucoup de mal. Mais si on exclut ce problème régional, la Chine n'est pas une puissance d'envergure véritablement mondiale et elle ne fait pas le poids sur le plan stratégique face aux Américains. Quand la Chine menace Taïwan, l'Amérique rappelle discrètement qu'elle envoie ou qu'elle pourrait envoyer un ou deux de ses porte-avions et Pékin se calme très très rapidement. Donc même sa menace dans la région est limitée. Non, le vrai problème, c'est que si un désordre chinois s'installait, la Chine pourrait construire un problème très difficile à gérer pour une société mondiale qui se pense de plus en plus un devoir à l'égard des grands troubles. La Chine est en effet ingérable dans ce sens-là pour des raisons quantitatives. Il y a 20 ans, il y avait eu un début de famine dans deux provinces chinoises. Elles ont demandé à l'Organisation mondiale, une grande organisation de secours alimentaire mondiale, des secours. Et si la demande chinoise avait été confirmée, la dite organisation aurait dû lui consacrer toutes ses disponibilités de secours alimentaire pour toute l'année. C'est-à-dire, c'est là que la notion de nombre intervient. Et je voudrais terminer sur une réflexion, cette fois-ci d'ensemble, et une minute sur la Chine. Au fond, la Chine a toujours été partagée entre deux. Elle a toujours eu deux faces. Il y a toujours eu une face d'ordre et une face de désordre. Le confucianisme d'un côté, tous les désordres de l'esprit et du corps d'ailleurs ont été également expérimentés en Chine. Si la Chine a été à ce point fascinée par l'ordre au point de construire cette extraordinaire méthode d'ordination qu'est le confucianisme, c'est aussi parce que ça s'avait en profondeur tenté par des désordres extraordinaires dont l'histoire chinoise donne d'un exemple. Le désordre, c'est le luan, c'est le chaos et c'est l'obsession de tous les dirigeants chinois. Je pense que les dirigeants chinois actuels ont fait un travail extraordinaire dans des conditions très difficiles et à un prix moralement peut-être contestable et au détriment de leur propre idéologie, mais franchement, c'est un résultat tout à fait remarquable. Je crois que néanmoins, le monde dans lequel ils rentrent fait que le luan, le désordre, n'est pas encore complètement conjuré et qu'il plane encore comme une sorte de fantôme suspendu au-dessus de la Chine d'aujourd'hui. Merci.
Excusez-moi, monsieur Lomenac, mais vous avez dit que la Chine n'appartenait pas aux grandes puissances. Alors que pensez-vous du calcul de la CIA du PPA pour la placer deuxième puissance mondiale? Accepteriez-vous, en deuxième réponse, de nous redonner le chiffre des chômeurs en Chine? Et en troisième question, si vous permettez, vous avez parlé d'une avancée sociale, et pourtant on sait que 40% des enfants des zones rurales pauvres ne vont plus à l'école. Par exemple, je pense au Guangxi, Guizhou et Yunnan, où on reste quand même très pauvre, me semble-t-il.
Très rapidement, parce que c'est des questions fondamentales et rapidement posées. Bravo, madame. Le PPA, c'est le calcul du produit national en parité de pouvoir d'achat, c'est-à-dire avec un sou, qu'est-ce que vous pouvez acheter? Évidemment, avec un yuan, vous pouvez plus acheter en Chine qu'aux États-Unis. Pour moi, je ne crois pas que ça suffise à définir la puissance, parce que la puissance, c'est à la fois avoir des moyens technologiques supérieurs aux autres, les moyens de les utiliser et les moyens de les projeter. Et je crois que la Chine est très, très loin, non seulement d'ailleurs technologiquement, mais culturellement et nationalement, voire même politiquement, de ces moyens-là. On en reparlera peut-être dans une cinquantaine d'années. Deuxième point, les chômeurs. Bravo, madame, de poser cette question. Je reconnaissais, j'ai parlé déjà trop vite et je m'en excuse. C'est un point central. Je vous dirais qu'on n'en sait rien, parce que les dirigeants chinois réagissent à ce problème de chômage qui est créé par le dégraissage des entreprises d'État avec une remarquable intelligence. Bien souvent, j'ai envie d'organiser des charters en Extrême-Orient pour les dirigeants occidentaux, parce que, je ne vais pas donner trop d'exemples, mais enfin, il est clair que si vous voulez apprendre les moyens de limiter le chômage tout en maximisant les possibilités de réemploi de quelqu'un par l'entreprise qui, au jour d'aujourd'hui, n'a plus les moyens de le payer complètement, vous pouvez aller faire un stage dans les entreprises chinoises et vous verrez toutes les gradations qu'il y a entre « je te paye encore ton salaire, mais à la condition que tu trouves un job dans les 5 ans, je te paye la moitié de ton salaire, tu restes chez toi, tu fais ce que tu veux, dès que j'ai plus d'argent, je te réemploie, je te paye seulement une toute petite partie de ton salaire, mais je te donne un petit pécule pour réinvestir ailleurs et on reste en contact, peut-être il y aura quelque chose pour toi plus tard. » Et je suis désolé, j'ai plus un sou, mais vraiment, je te paye la sécu-soc. Quand même, si on a une... je peux t'aider, etc. J'ai des copains, parce que tout marche par mafia là-bas. Donc, le directeur de Zine appelle ses camarades, etc., etc. Il y a vraiment un exemple de politique sociale qu'on peut appeler hypocrite, etc., telle que l'évaluation des chômeurs passe de, suivant les degrés, disons, sur les marches de l'escalier du soutien social, de quelques millions à 35-40 millions. À cela, il faut ajouter les chômeurs venus de la campagne, c'est-à-dire que l'agriculture chinoise progressant à toute allure, là, il y a de la main-d'œuvre maintenant et est devenant de plus en plus technique. La main-d'œuvre en surplus est de plus en plus importante et on estime que probablement entre 100 et 200 millions de paysans vont se rapatrier vers les métropoles chinoises qui jusqu'à présent avaient réussi à peu près à canaliser ce flot, et là on ne sait pas comment elles vont pouvoir faire. J'ajoute que les industries locales chinoises qui fixaient justement une partie de cette main-d'œuvre dans les petites villes semblent avoir, la mondialisation aidant, trouvé leur maximum technologique et financier. Tout ça fait que les dirigeants chinois ont devant eux des dossiers sociaux absolument extraordinaires. Très rapidement, beaucoup plus rapidement, le dernier point, c'est effectivement le problème d'un capitalisme sauvage qui s'installe dans le même temps où, je vous l'ai dit, le communisme n'a pas encore disparu. C'est la transition chinoise, que quand l'argent fait la loi, l'instituteur, Jules Ferry, l'instituteur n'a plus les moyens d'aller chercher par les oreilles le petit garçon et le plus souvent la petite fille qui reste à la maison ou qui va aider, qui reste à la maison pour garder la volaille ou qui va aider aux travaux dans les champs pendant la période des grands travaux, des grandes récoltes. Là, c'est effectivement une des pages noires de la Chine d'aujourd'hui.
Là-haut, monsieur.
Oui, monsieur, vous avez esquissé l'extrême fragilité sociale et financière de la Chine et donc vos inquiétudes pour l'avenir, vous allez dire, de l'équilibre de la Chine. Je voudrais aborder justement à ce sujet la question, ce que vous pensez de l'OMC, des négociations en cours pour l'OMC, où il faut se rappeler que si la Chine a évité la catastrophe en 1998, c'est parce qu'elle avait un contrôle d'échange qui lui a permis d'éviter ce qui serait passé, vu qu'elle avait une situation financière bien plus grave que les autres pays qui ont chuté à l'époque, dans le cas de la Corée en particulier. Ouais. Et demain, si elle accepte les conditions que lui impose l'Occident, il est évident qu'elle ne pourra pas s'en sortir. Enfin, de mon point de vue, je voudrais avoir votre point de vue.
Je vous remercie. J'avais marqué ça sur mon papier, vous l'ajoutez. La Chine mondialisée, harmonisée au règlement de l'OMC, aurait eu d'extrêmes difficultés résister à une nouvelle crise financière venue d'Asie, notamment parce que son contrôle d'échange serait affaibli, notamment parce que toutes les frontières qui lui ont permis de se replier sur son marché extérieur seraient érodées ou auraient disparu. Je crois que c'est à ajouter au catalogue des difficultés prévisibles. Bravo et merci.
Oui. Monsieur, en haut, tout en haut.
Oui, bonjour. Je voulais revenir sur le point que vous avez développé dans votre conclusion concernant la présence chinoise dans la région. Et je voudrais donc recueillir votre avis sur l'appropriation que veut faire la Chine de ce qu'on appelle les îles Spratly, les risques de conflits qui ont été développés avec le Vietnam, paraît-il même la Malaisie. Donc au-delà du seul aspect stratégique, sachant que les Spratlys sont situés sur une route commerciale très importante et de l'éventuelle présence de pétrole, est-ce que vous verriez cela comme, on va dire, un signal clair lancé aux Américains ou une simple manifestation du nationalisme que vous aviez évoqué dans votre présentation ?
Oui, alors pour l'assistance, les Spratlys sont une collection quasi infinie d'îlots à peine découverts à marée basse, qui sont en gros au droit d'Hanoï et pratiquement jusqu'à l'Indonésie. Leur intérêt est plus stratégique, ligne de communication, notamment pétrolière vers la Corée et vers le Japon, qu'économique, car il semble qu'il n'est pas certain qu'il y ait beaucoup de pétrole. Et les Chinois ont une tendance irrépressible à déclarer qu'au fond, les Spratlys, c'est à eux depuis toujours, ce qui fait pousser des cris d'orfraie à tous les pays voisins, mais comme ils sont divisés entre eux, le dossier n'avance pas. Ce qui avance, c'est la marine chinoise. Je crois que c'est assez énigmatique parce que je crois qu'il y a deux raisons pour lesquelles les Chinois tiennent bon. La première raison, c'est qu'au fond, à peu de frais, parce que les pays d'Asie du Sud-Est ne sont pas vraiment très dangereux, ils donnent à leur opinion, qui on l'a vu, est très très sensible à cette affaire, la preuve de leur, application, de leur fidélité à leur nationalisme originel. La deuxième raison pour laquelle ils font ça, c'est qu'ils veulent embêter les Japonais. J'ai pas eu le temps de dire, je me suis concentré en effet sur la question de l'Occident, mais le deuxième grand problème de la Chine d'aujourd'hui, après le problème des États-Unis, c'est le problème du Japon. Il y a là un vrai problème qui n'est comparable qu'avec ce que nous avons connu entre nous et la Prusse puis l'Allemagne, jusqu'à une période récente, c'est les deux pays comparables, les jumeaux ennemis, qui n'ont jamais fait le même choix. Et pas de chance, les Japonais ont toujours, à une exception près, grave il est vrai, fait le bon choix, pendant que les Chinois faisaient toujours le mauvais, à une exception près, depuis l'arrivée de l'Occident dans la région. Et il y a une sorte de contestation mutuelle qui est la structure fondamentale des relations entre ces deux pays. Et qui tient les Spratlys embête très sérieusement les Japonais à cause de la question des lignes de navigation. Voilà. Mais c'est une drôle d'affaire. Et effectivement, on peut écrire, et on a écrit des romans d'anticipation faisant partir une guerre mondiale à partir d'un conflit sur les Spratleys.
Monsieur.
Vous avez parlé de la supériorité américaine par rapport à la Chine sur le plan militaire, mais est-ce que la guerre de Corée, qui avait très très mal commencé au début pour les Américains, n'a pas nécessité à un moment donné le fait que MacArthur ait prôné l'emploi de la bombe atomique? Et c'est, il a fallu que ce Truman calme le jeu.
Oui, et vire MacArthur d'ailleurs. La guerre de Corée est vraiment est une histoire trop, trop négligée. Monsieur, je vous remercie de poser cette question. C'est un événement effroyable. C'est la guerre froide chaude. Ce qui s'est fait là-bas est quelque chose d'abominable. Les Chinois ont précipité leurs millions de fantassins contre les nids de mitrailleuses américains, mais contrairement à ce qui a pu se faire à d'autres moments, ce sont leurs fantassins qui l'ont emporté. Et finalement, ils ont redressé une situation très, très, très compromise après que MacArthur ait effectivement menacé la Chine de la bombe atomique. Et c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, Pékin s'est précipité dans les bras de Moscou. Je crois que vous avez raison de rappeler l'importance de ce moment. Et on peut le dire aussi au passage, il faut parler de ce peuple nord-coréen qui vit depuis cette guerre-là d'un malheur effroyable. Il a commencé avec la guerre, qui a été quelque chose d'abominable. La Chine a perdu plus d'un million de personnes dans cette affaire-là. Les nord-coréens, depuis, ne sont pas encore sortis d'un malheur qui s'est encore approfondi avec la crise alimentaire récente.
Monsieur, ici.
Je voulais dire que l'avortement est idéologique en Occident. Est-ce qu'on peut en dire autant de la Chine ?
Ah, je ne sais pas si l'avortement est idéologique, c'est votre droit de le penser. Est-ce que l'avortement est idéologique en Chine ?
Ou au marxisme ?
Il n'a pas été... Ah non, le marxisme n'a rien à voir. Mao Tse-tung était dans la ligne globalement anti-malthusienne, qui est la ligne du marxisme en général. Les marxistes ont eu assez tendance, parce qu'ils étaient pour le peuple, de dire plus on est de fous et mieux ça marche, et plus on peut aligner des gens en rang et les lancer à la conquête de la nature. Mao Tse-tung était sur cette idée-là, et c'est probablement d'ailleurs, et je vous remercie, et de votre question, ce qu'il a fait de pire, parce que c'est sous Mao que la population chinoise est passée de 500 millions à 900 millions d'habitants. Elle est aujourd'hui d'1,3 milliard. Et donc, il y a une vraie tragédie de la croissance démographique, même s'il n'y a pas de tragédie céréalière, mais ça fait quand même beaucoup de monde à équiper et à nourrir. Donc, on ne peut pas parler d'un avortement idéologique dans le marxisme. Ce sont les successeurs de Mao qui se sont dit qu'il était indispensable politiquement et économiquement de limiter la population et qui, par politique et par police, tout simplement, l'ont forcé. Je vous dis franchement que la population chinoise, pour qui l'idéal dans la vie, c'est d'avoir des enfants, a résisté à cette politique avec toute l'astuce et toute l'hypocrisie que les résistances populaires montrent dans l'histoire. Et cette politique, en fait, qui n'a que partiellement réussi, est actuellement abandonnée parce qu'elle est sauvée par la cavalerie. Et la cavalerie, c'est quoi ? Elle est sauvée par un événement qu'ils n'avaient pas prévu, et c'est la transition démographique. C'est-à-dire que maintenant que l'économie chinoise va mieux, eh ben les Chinois eux-mêmes font moins d'enfants. Donc la politique d'avortement quasi obligatoire est progressivement assouplie pour être bientôt abandonnée, vraisemblablement, les Chinois eux-mêmes, notamment dans les villes, ayant une démographie beaucoup plus contrôlée.
Une seconde, non, une seconde. J'avais intercalé les questions qui arrivent d'un centre du CNAM à Laval. Est-ce que, alors je le dis, hein, j'ai du mal à déchiffrer, est-ce que la poursuite de l'essor de la Chine peut être conduite par une initiative individuelle ? J'ai du mal à comprendre, là. Initiative. Ah. Oui, non, c'est bien initiative. Est-ce que par un seul homme, quoi, c'est ça, ouais. Peut-être ce que ça veut dire. Hein.
Ouais. C'est pas mal, c'est peut-être un Chinois qui a posé cette question, ça pourrait l'être.
C'est pas non, possible.
Non, mais ça porte sens. Parce que c'est une représentation qu'on a souvent là-bas, qui sont tellement nombreux. C'est une représentation assez courante en Chine que la Chine est si nombreuse, si tentée par le désordre, qu'il faut de l'ordre, et l'ordre se figure toujours plus aisément en un homme. Nous-mêmes, on a expérimenté ça à diverses reprises, nos autres Français. Donc, l'idée de l'Inde empereur, disons, qui lui-même est figuré à tous les niveaux de la société et imité, en quelque sorte, c'était ça l'ordre impérial. Il y avait peu d'administration, puisque l'empereur donnait un exemple, qui était censé être imité par tous les empereurs un peu partout. Eh bien, Mao Zedong a été une forme d'empereur rouge, et Deng Xiaoping a été lui-même le petit empereur. Et on voit M. Jiang Zemin actuellement prendre des allures de plus en plus hiératiques et impériales. Moi, c'est le sens que je vois à cette question et je la trouve
non,
pas mauvaise.
Je pense que tu as raison, c'est une question de quelqu'un qui est chinois. Parce que je saute la seconde qui me semble peu intelligible, mais la troisième. Est-ce moral de consommer des produits fabriqués par des prisonniers politiques chinois?
Moi, je sais, si c'est moral, ça c'est plutôt une affaire pour toi. Moi, je crois que sur la moralité de la consommation, je ne sais pas, c'est le problème de la production qui se pose. Je voudrais dire deux choses à ce propos-là. Oui, il est vrai qu'il y a du travail dans les prisons chinoises, mais il y a du travail dans les prisons françaises, il y a du travail dans les prisons américaines, notamment en Californie, par exemple. Donc, ce n'est pas le problème qu'il y ait du travail dans les prisons qui se pose, c'est le problème de savoir s'il est forcé, dans quelles conditions il est effectué. Et c'est là que la situation en Chine est souvent tragique et inacceptable. Elle est notamment inacceptable quand les prisons chinoises produisent non seulement des biens, médicaments et autres, mais également des organes. Et on sait que dans quelques prisons, ça se sont en Chine accouplés en quelque sorte à des officines de vente d'organes articulées sur les grandes métropoles occidentales ou asiatiques, et qu'en gros, certaines de ces prisons articulent la date d'une exécution avec une commande urgente venue de Singapour ou de San Francisco. Ça, il y a ça. Est-ce qu'on juge de toute l'évolution des droits de l'homme en Chine à travers ça? Je ne crois pas non plus. Il faut être capable de dire deux choses en même temps. Un, il reste du point de vue des droits de l'homme des choses abominables qui se passent en Chine. Au Tibet, il est curieux qu'on ne m'ait pas encore posé la question, parce que maintenant elle tombe, et Dieu merci. Sur la question des prisons, oui. Et en même temps, tu as le contrôle, l'interdiction de la politique. Mais en même temps, il faut savoir reconnaître que, par rapport à la situation qui était en Chine il y a 25 ou 30 ans, la situation d'aujourd'hui est infiniment plus détendue. En gros, si vous vous abstenez de faire de la politique trop évidemment, vous êtes à peu près tranquille dans à peu près tous les domaines. Et on voit maintenant, au miracle, apparaître de la littérature homosexuelle, des petits bars branchés, etc. Enfin bref, la Chine évolue et on voit un dernier élément, les dirigeants chinois qui font donner leur police dès qu'un parti démocrate cherche à se mettre en place sont les mêmes qui de passage en Occident déclarent qu'ils finiront par réaliser un jour la démocratie en Chine. Bon, tout ça, c'est quand même de bon aloi.
Nous allons prendre encore deux questions.
Oui,
monsieur
bonsoir.
Et monsieur après vous.
Niao, Nian, c'est bonjour en chinois, je crois. Nian, je voudrais vous poser une question.
Comment poser une question.
Oui,
si vous
mais pouvez, je la pose. Est-ce que vous voyez une différence entre le socialisme de marché et le capitalisme social? Et ma deuxième partie de question va peut-être vous aider à répondre. Je vais faire un peu de corruption. Hier, il a été parlé, entre autres, de ce que le bricolage était un moyen d'accès au pouvoir politique. Avec, bon, il se trouve que par rapport à hier, les résultats économiques ne sont pas tellement bons. Alors, par contre, la Chine est réussie économiquement, je trouve. Je pense que c'est parce que la Chine a compris, et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, est-ce que la Chine n'aurait pas compris la nécessité des relations inter-agents économiques?
Les nécessités des relations?
De faire apparaître des marges bénéficiaires dans les relations inter-agents économiques, surtout qu'elles soient réinjectées dans le système économique. Merci, monsieur.
Bien. Je me concentrerai sur votre question, parce que la deuxième me paraît m'appeler, disons, des raisonnements trop longs. Et la première me paraît plus centrale. Socialisme de marché, capitalisme social. Je crois que c'est une bonne question. Vous avez raison. C'est du socialisme de marché. En quoi différencie-t-il? Eh bien, il est assez peu social, paradoxalement. Il y a beaucoup moins de lois sociales en Chine que chez nous. Et ce n'est que très récemment que des politiques sociales sont mises en place, alors que les lois sociales elles-mêmes sont relativement en retard. Et les Chinois sont souvent scandalisés par l'ampleur de l'absentéisme, la protection des salariés, etc., dans les entreprises françaises. La Chine découvre avec un appétit formidable les joies du capitalisme. Elle découvre également sa dureté. Je crois que nous vivons, nous, dans un capitalisme plus ou moins social, que la Chine, elle, vit dans un socialisme au sens où il s'agit d'un État dirigé par un parti par un parti État qui se dit socialiste, qui forme le marché qu'il considère être un marché, c'est-à-dire un marché extrêmement contrôlé et quadrillé par les administrations, les mafias, les groupes d'intérêt, etc. Dans ce sens-là, il y a encore une différence formidable entre l'un et l'autre, mais l'un et l'autre se retrouvent dans le même marché mondial qui, lui, est franchement capitaliste et qui va imposer un problème. Mais c'est pour ça que s'il y a une question vraiment là, monsieur Lameilleur, je ne sais plus, enfin, c'est la question sur l'OMC, hein, la question vraiment stratégique parmi celles qui ont été posées, où toutes étaient intéressantes, mais la question stratégique, c'est celle de l'effet de l'OMC sur la Chine, parce que ce socialisme de marché, au sens où je viens de le dire, va maintenant rencontrer un marché international capitaliste.
Alors, encore deux questions, monsieur et puis monsieur. Pour les questions, ce que je vais vous dire, c'est qu'il faudrait que les gens se signalent un petit peu à l'avance, hein, parce qu'elles surgissent toujours au dernier moment et c'est difficile de les voir.
Il y a deux jours, on a écouté un conférencier russe qui nous disait que le marxisme était un article d'importation étrangère en Russie. Et je crois que vous serez d'accord pour reconnaître que le marxisme est également un article d'importation étrangère en Chine. Et qu'on assiste, dans ces deux pays, en tous les cas en Russie, à un rejet de la greffe et à une décomposition de cette idéologie. Et vous donnez l'impression, d'après votre exposé, que c'est la même chose qui se passe en Chine. D'autre part, le problème qui se pose pour les Russes, c'est de dire qu'allons-nous faire, allons-nous imiter l'Occident. Alors vous donnez l'impression, vous, que les Chinois rêvent de s'occidentaliser, et vous donnez, je m'excuse de faire cette comparaison, mais Le Monde a publié il y a quelques années, pour montrer que l'Occident, finalement, ou en tous les cas la Russie, se mettait un peu à l'heure de l'Occident, n'est-ce pas, on apprenait qu'à Novosibirsk, on ouvrait une boîte de nuit de stripteaseuses. Et vous avez l'air de dire que le fait que des journaux sur l'homosexualité qui commencent à apparaître en Russie, en Chine, sont des symptômes intéressants. Je me demande si quand même il ne faudrait pas voir, vous avez parlé par exemple tout à l'heure des problèmes des droits de l'homme, s'il faudrait pas voir un peu les choses plus à fond. Est-ce que vraiment l'Occident est un exemple tout à fait valable pour cette Chine qui est en train de basculer? Et puisque vous avez parlé des droits de l'homme, je voudrais vous poser la question sur la liberté religieuse. Est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer, par exemple, vous qui venez de l'Occident chrétien, si vous avez eu l'occasion de rencontrer des catholiques chinois, et que disent-ils de ce qui se passe chez eux?
Oui. Il y a plusieurs questions. Il y a plusieurs questions, vas-y, qu'est-ce que tu veux? Alors, très rapidement. Monsieur, j'ai parlé à toute allure et en 53 minutes. Hein. Si vous me laissez plus de temps, je vous en dirai plus. Notamment, la vraie question n'est pas seulement la question, probablement la vraie question n'est pas de savoir si l'Occident est un exemple. Dans l'histoire, toute une série de modèles se sont succédés, dont d'ailleurs le modèle soviétique, le modèle chinois lui-même. La question de savoir est de savoir s'il est digestible par la Chine et à quelles conditions et avec quel effet. Parce que je vous ai dit que les Chinois, il y avait un rêve d'Occident qui se créait en Chine. Je ne vous ai pas dit, un, que les Chinois avaient raison, deux, ce qu'allait se passer. Je pense que ce rêve d'Occident va poser des problèmes très graves à la société chinoise. Je ne dis pas que c'est un tort pour les Chinois de rêver d'Occident, je dis que ça va poser des problèmes très très graves. Parce que ça fait beaucoup de choses à faire pour la société chinoise en même temps que de s'adapter à de nouvelles formes sociales et à de nouvelles normes, disons, morales. C'est une affaire extrêmement grave et extrêmement difficile. Et vous me posez une autre question qui est extrêmement difficile, qui est la question du christianisme en Chine. Parce que il y a des gens très savants qui ont écrit des beaux livres là-dessus, et je voudrais pas donner l'impression que j'ai, comment dire, la science infuse sur cette affaire-là. Et il y a un vrai christianisme chinois, comme il y a un islam profondément chinois, Et je dis d'ailleurs en passant que beaucoup de Chinois font des comparaisons qui vont très loin entre l'islam et l'Occident. D'un point de vue chinois, ce sont deux religions monothéistes, deux religions où on peut communiquer, on peut prier le Dieu, etc., communiquer avec lui, etc. En tout cas, il y a un vrai problème du caractère, de la possibilité pour un christianisme chinois. Néanmoins, je crois que quand même, historiquement, c'est plutôt ma position de pensée, que le christianisme chinois... Le christianisme s'est répandu en Chine, il faut bien le dire, dans les fourgons de l'envahisseur. Je dis les choses comme je les sens, monsieur, mais je vous dis, j'ai pris la précaution de dire qu'il y a par ailleurs des gens qui pensent le contraire. Alors, cela posé, le christianisme chinois aura eu vraisemblablement ses grandes heures au temps de la persécution. C'est-à-dire que je crois qu'il a progressé, il a été protégé par les grandes puissances. L'ambassadeur de France était le protecteur des chrétiens de Chine. Et quand un moine se trouvait victime d'un attentat ou quoi que ce soit, il prenait sa canne et son chapeau et il allait faire une démarche auprès du ministère des Affaires étrangères chinois en menaçant d'envoyer une canonnière. C'était ça, hein. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu par ailleurs des gens très bien, etc. On trouve sur les quais, vous verrez des récits, des vieux livres, des récits de prêtres, etc., tout à fait admirables. Je crois que le christianisme chinois a connu ses grandes heures lors de la persécution. C'est là vraiment que, je pense, le pape aurait dû trouver les gens qu'il vient de célébrer, plutôt que dans la période d'avant. Ce qui s'est passé dans les camps de travail, tel moine célébrant la messe, alors sachant que s'il est pris, ce sera évidemment la disparition immédiate, tel chrétien pour continuant à exercer leur foi dans une clandestinité totale. Une fois, je suis tombé sur un village entier qui était resté collectivement chrétien, et il me disait, mais c'est clair, les cadres communistes, quand ils arrivent, ils savent que s'ils nous embêtent, ils auront affaire à nous. Et ils faisaient ce geste-là. Donc, il y a eu de tout, et c'est sûr que le christianisme a beaucoup gagné aux persécutions qu'il a subies, et notamment dans ses rangs protestants, progresse actuellement à toute allure. Mais il est vrai que dans la Chine d'aujourd'hui, pour des raisons que j'ai dites, il y a deux métiers d'avenir. La première, c'est celle de comprador. Le premier, c'est celui de comprador, et le deuxième, c'est celui de prophète ou de fondateur de secte.
Alors, on va prendre une dernière question, monsieur.
Oui, je vais me lever peut-être. On a abordé surtout, il y a eu beaucoup de questions sur les aspects économiques de la Chine. Moi, j'aimerais parler des intellectuels et de la Chine. J'ai le sentiment qu'il y a vraiment un silence des intellectuels. Alors bon, moi, j'ai pas connu, je suis beaucoup trop jeune pour ça, mais les années 60-70, j'ai le sentiment qu'il y avait vraiment une sorte d'effervescence, de sinophilie, disons. Et alors, aujourd'hui, non, plus tellement. Alors, est-ce que les intellectuels auraient mauvaise conscience, le sentiment de s'être trompés, beaucoup trop trompés, et aujourd'hui, ils ne veulent plus tellement s'exprimer sur la Chine. Et ça pose problème, parce que dans votre exposé, on a vraiment vu à quel point c'était compliqué, la Chine, complexe. Donc, est-ce qu'on n'a pas besoin d'eux pour clarifier le problème? Et d'autre part, sur la survie du communisme, vous avez beaucoup parlé de la Chine, et pour cause, mais beaucoup de la Russie aussi. Et alors ça, c'est une réflexion un peu personnelle, mais est-ce qu'on peut pas penser que aider la Russie aujourd'hui, ça pourrait aider la Chine aussi? C'est-à-dire que la Russie aujourd'hui a des difficultés à sortir du communisme. Ça, est-ce que ça conforte pas les dirigeants chinois et l'opinion publique que dans l'idée que c'est difficile de sortir du communisme, donc autant conserver le système. Vous voyez ? Donc, si on aidait la Russie, peut-être que ça aiderait à libéraliser un peu la Chine.
Je suis d'accord avec votre deuxième point, mais il y a d'autres raisons plus importantes pour travailler avec la Russie et pour s'en préoccuper. Hein. La Russie par elle-même pose suffisamment de problèmes, donc c'est vrai que c'est un des arguments des dirigeants chinois de dire à leur peuple, regardez ce qui se passe en Russie. Ça, c'est vrai. Le plus intéressant, c'est votre première question, c'est vrai. Les intellectuels français sont fascinés pour la Chine, alors que maintenant, les intellectuels s'en préoccupent beaucoup moins. Je dirais que c'est assez compréhensible, si vous me permettez la formule. Pour eux, la chair est triste parce qu'ils ont lu tous les livres. Ils ont lu les livres sur la Chine et ils savent maintenant quelle a été la réalité. Et la réalité, elle était bien le contraire de tout ce qu'ils racontaient. Elle était le contraire du rêve et des utopies qui ont régné dans les années 60 et 70. Le problème, c'est que les intellectuels français, mais ça, enfin, beaucoup de gens le disent, Bon, voilà, elle travaillait sur la complexité, essayer de montrer que les phénomènes ne sont pas simples, travailler sur des énigmes, mettre en évidence des hypothèses, des possibilités d'évolution. Et c'est compliqué, ça demande du boulot, et ça ne fait pas un édito bien senti dont on parlera à la revue de presse du lendemain. Voilà, on peut dire ça. Mais après tout, vous trouverez quand même d'excellents livres qui sont publiés, qui sont disponibles dans les librairies, ceux que je vous ai cités en commençant.
Merci, Jean-Luc.